France Inter.
En 1956 à Saint-Pierre de la Réunion, jeunesse studieuse, études d'ingénieur agronome sans conviction, a travaillé, non sans dégoût, dans l'informatique de gestion. Voici comment se présentait l'écrivain, poète et acteur occasionnel Michel Houellebecq dans son premier recueil intitulé « Quelque chose en moi » paru en 88. Celui qui a œuvré aux services informatiques du ministère de l'Agriculture ou de l'Assemblée nationale est entré en littérature par la poésie et un essai consacré à Lovecraft. Il façonne ensuite l'univers romanesque désenchanté que tout le monde connaît, même ceux qui ne l'ont pas lu, dans les romans « Extension du domaine de la lutte »,« Les particules élémentaires »,« Plateforme »,« La possibilité du Nil »,« La carte et le territoire » pris Goncourt, « Soumission »,« Sérotonine » et « Anéantir ». Frédéric Lau est musicien, compositeur, arrangeur, auteur et producteur de musique. Il a notamment collaboré avec Daniel Darc, Pony Pony Run Run, Stéphane Echer, Maxime Le Forestier, Christophe Honoré, Alex Baupin, Alain Chamfort, Hubert-Félix Thiéphen ou encore Pete Doherty. Comme l'avait fait Bertrand Burgala avec l'album culte Présence humaine, il vient de mettre en musique les textes du poète qui est depuis ses débuts familier des lectures modulées. Souvenez-vous de l'homme, paru sur le label Water Music, comporte 12 chansons inédites dont 6 poèmes appartenant au recueil de Michel Houellebecq qui paraît en même temps chez Flammarion sous le titre Combat toujours perdant. Bienvenue et bonsoir dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure. Eva Bester.
Bonsoir Michel Houellebecq et Frédéric Lau.
Bonsoir.
Bonsoir.
Michel Houellebecq, quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé, s'il vous plaît? Surprenez-moi, dites-moi qu'il y en a une.
Dernière chose qui m'a enthousiasmé. Doc Watson. Je ne connaissais pas.
D'accord. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Non.
D'accord.
Non, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça me plaît tellement. Je ne sais pas.
D'accord, Doc Watson. Frédéric Lau.
Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé le dernier livre de Constance Debray, Protocole.
Ah, on l'avait reçu pour la sortie de ce livre.
Voilà, j'ai trouvé ce livre d'une force incroyable et d'une âpreté magnifique.
Michel Houellebecq, pourquoi aviez-vous choisi le pseudonyme Dorian de Smith Winter dans la revue Karamazov que vous aviez fondée?
Moi, c'était pour... Ah si, je me souviens. C'est une allusion à une nouvelle peu connue, enfin, de Fritz Leiber, qui s'appelle Les pieds et les roues. Enfin, c'est assez mal traduit, mais. Et le personnage, il y a un personnage qui s'appelle comme ça, en fait.
Vous êtes connu pour votre pessimisme, voire votre désespoir. Est-ce que vous restez persuadé que tout bonheur est d'essence religieuse?
C'est pas faux quand j'y pense. Condition d'ajouter qu'on peut. Donner un sens religieux à des choses qui ne sont pas ordinairement, quoi.
Par exemple?
Je sais pas, par exemple, mettons l'amour humain, on peut voir ça sous un angle religieux, si on veut.
Pour atteindre quoi? L'extase, l'absolu? Le sentiment de plénitude?
Oui, l'extase, oui. Oui.
Vous l'avez souvent atteinte?
Ça m'est arrivé.
Frédéric Lau, quel est votre rapport à la mélancolie et à l'univers de Michel Houellebecq?
J'ai toujours aimé l'œuvre de Michel, elle m'a toujours parlé. Très jeune, j'ai aimé des choses assez dures, le Velvet Underground, les textes de Lou Reed, Joy Division, les choses ou les Smiths. Michel, à la fois, j'aime le fait que ce soit... pessimiste et à la fois drôle, à la fois cru et à la fois tendre. C'est pas seulement pessimiste pour moi.
Vers la fin d'une nuit, au moment idéal, où s'élargissant brille le bleu du ciel central, je traverserai seul, comme à l'insu de tous, la familiarité inépuisable et douce des aurores boréales. Puis mes pas glisseront dans un chemin secret, la première rue banale, qui depuis des années serpente enfin des dalles
reconnaîtrai. Je ne connais pas bien l'étendue de la terre, ni la durée de mon voyage. Dans quelques jours, sûrement, il y aura la guerre. Vers l'est, le conflit se propage. Vers la fin d'une nuit, au moment idéal, où s'élargit sans bruit le bleu du ciel central, je traverserai seul, comme à l'insu de tous, la familiarité inépuisable et douce des aurores boréales. Ce sera un matin apaisé et discret, je marcherai longtemps, sans joie et sans regret, la lumière très douce des aubes hivernales, enveloppant mes pas d'un sourire amical. Ce sera un matin lumineux et secret. Je ne connais pas bien l'étendue de la terre, ni la durée de mon voyage. Toujours sûrement, il y aura la guerre. Vers l'est, le conflit se propage.
Michel Houellebecq et Frédéric Lowe.
Est-ce que je peux poser une question ?
Bien sûr.
Vous savez sûrement ça. Qui est-ce qui avait fait une exposition sur la mélancolie ?
Bien sûr, c'était un historien de l'art
voilà,
que j'ai reçu.
Jean-Claire.
Jean-Claire, exactement.
Voilà, Jean-Claire, oui.
Oui.
Parce que j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve que mélancolie, on le prend dans un sens trop léger. Pour un psychiatre, un mélancolique n'est pas loin du suicide, quoi.
Bah, dans le manuel des troubles psychiatriques, c'est le degré le plus grave de la dépression.
Voilà.
C'est comme ça que vous l'entendez ?
Bah oui, je trouve qu'on le donne trop souvent un sens allégé, quoi.
Ah oui, ouais. C'est vrai, on galvaude.
Frédéric Lowe.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous êtes d'un tempérament dépressif tous les deux ?
À moi, pas.
Frédéric Lowe, non ? Michel Houellebecq ?
Mais pas tant que ça. Je suis plutôt angoissé que dépressif.
Vous prenez des antidépresseurs, vous qui avez écrit Sérotonine ?
Alors, j'ai pris des antidépresseurs, mais c'est très bizarre. Les antidépresseurs, ça permet magnifiquement de donner le change. Avec des antidépresseurs, tout le monde vous dit que vous allez en pleine forme, alors que vous êtes complètement au bout du rouleau, en fait. Mais vous donnez le change. Et donc, c'est pas très sain, je trouve, les antidépresseurs.
Donc, vous n'en prenez plus ?
Non. J'en ai très peu pris. J'en ai pris pour donner le change, hein, vraiment. Quand je travaillais, notamment.
Vous ne travaillez plus ?
Bah, non, quand je travaillais...
Ah oui, vous voulez dire en entreprise.
Un vrai travail.
Entreprise, oui. pour arriver à faire semblant de m'intéresser à ce qui se passait, quoi. Donner le change, oui.
Et vous prenez des anxiolytiques ?
Oui, ça m'arrive, oui.
Moi aussi.
Tous les deux.
Mmh.
Moi aussi. Tous les trois. Il faut faire attention à la mémoire, paraît-il. On vient d'entendre Le bleu du ciel central sur votre album, Frédéric Lowe et Michel Houellebecq, ce qui confirme que vous faites des très belles mélodies, Frédéric Lowe, et que vous avez une très belle voix, Michel Houellebecq. Vous dites dans le dossier de presse, Michel Houellebecq, la seule chose qui n'est au fond pas très surprenante dans ce projet, c'est que Frédéric Lowe et moi travaillons ensemble, c'est-à-dire...
Vu ce qu'il a fait, enfin, après Daniel Darc et Pete Doherty, il y a une sorte de logique quand même.
Oui, justement, alors comment est-ce. Parce que quand vous vous occupiez de Daniel Darc, Frédéric Lowe, il y avait des producteurs qui n'y croyaient pas, qui vous disaient que vous n'arriveriez jamais à faire face à de telles personnalités.
Ah oui, un directeur artistique m'avait dit même tu donnes de la réhabilitation sociale maintenant. Ça m'a fait rire.
Alors comment vous faites ? Vous êtes attiré par les personnalités un peu ténébreuses ?
J'en parle depuis quelque temps à ma psy.
Vous voyez une psy.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez me dire un mot de la couverture de l'album ?
Michel ?
Non, Frédéric.
Frédéric.
Alors, Michel ne voulait pas qu'on soit sur la pochette. Je trouvais que c'était judicieux qu'on ne le soit pas. Et j'ai pensé à ce que Michel me propose, quelques clichés qu'il avait lui-même réalisés. Parce que je me souvenais qu'il avait fait de très belles photos.
Il a fait une exposition au Palais de Tokyo, d'ailleurs.
Tout à fait. Et donc, il m'a proposé 4 ou 5 clichés, et j'ai tout de suite beaucoup aimé celui-ci. C'est un paysage un peu lunaire, avec derrière des bâtiments qui ont l'air des bâtiments de météorologie des années 50. Entre-temps, juste au moment où on allait finaliser cette pochette, j'ai croisé un autre artiste d'art contemporain avec qui j'ai travaillé, qui est Xavier Veillant. Et 2 jours après, il m'a laissé un long message d'une candidature spontanée. Xavier a pensé à ce personnage avec des poils blancs. On ne sait pas très bien si c'est un homme ou si c'est le survivant de l'homme. Et on a intégré ce sorte de grizzly à la pochette. Et c'est devenu ainsi une collaboration entre nous trois.
Le morceau qui ouvre l'album, c'est le Bleu du ciel central. Il est très baudelairien. Est-ce que Baudelaire est toujours votre dieu, Michel Houellebecq ?
Oui.
Vous le relisez ?
Oh oui, oui, oui. Enfin, oui. Je lis plus les textes en prose, parce que je les connais moins, en fait. Je sais pas, les poèmes, j'ai à peine besoin de les relire. Enfin, si, de temps en temps, quand même, un petit peu. C'est le seul poète, à part moi, que j'ai lu en public, en fait. C'était en 2021, c'était son bicentenaire de sa naissance. Alors, j'ai été invité pour lire des textes de Baudelaire. Et c'est vrai que je ne le ferais pas avec quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, non.
Rimbaud, non.
Non.
Dans cet album, il y a des notions baudelairiennes comme l'idéal, les astres, les cieux, et puis il y a aussi évidemment la mort, la mélancolie et la guerre. Ce qui est assez inédit chez vous, Michel Houellebecq, pensez-vous que nous, les Occidentaux qui voulons vivre, pour reprendre un de vos vers, puissions empêcher la propagation de la guerre ?
Non. Non. Non, on peut pas.
Bon, au moins c'est très franc du collier. Frédéric Lowe, vous avez fait des compositions qui laissent beaucoup de place à la voix de Michel Houellebecq et une musique qui évoque des paysages un peu désertiques, comme sur la couverture, métaphysiques. Quelles ont été vos inspirations ? Comment vous l'avez pensé, cet album ?
C'est-à-dire que j'avais d'abord 6 textes de Michel, et je les ai gardés pendant au moins 6 mois dans mon sac. Je les regardais, j'avais du mal à m'y mettre, j'avais du mal à m'y coller. Et puis un jour, j'ai commencé à avoir une première mélodie, c'était justement le Bleu du ciel central. Je voulais que ce soit à la fois classique, à la fois très épuré, à la fois une sorte de lambeau d'ersatz d'une musique qui m'a bercé fin 70, début 80. J'ai beaucoup écouté du classique, mais de l'afterpunk, c'était la musique de ma jeunesse. Et donc, c'est un peu ce mélange. C'est-à-dire que, avec cette pochette étrange, je voulais que ce soit clair que c'était un concept album d'anticipation. Et donc, cette musique, c'est un peu un mix d'un souvenir de la musique que j'ai aimée.
Les pierres calcaires qui composent nos maisons sont des animaux morts, des animaux écartelés, dépecés, desséchés, des coquillages éviscérés, des coquillages écrasés, triturés, malaxés par la violence interne de la terre, par la terrifiante chaleur des entrailles de la terre, des animaux conglomérés et morts.
Michel Houellebecq, vous avez déjà fait plusieurs albums de poésie récitée, notamment avec Jean-Jacques Birger. Là, on entend le sens du combat avec une femme qui crie derrière. Vous dites faire partie d'un courant de poésie qui est fait pour être lu. Est-ce que vous pensez vos poèmes un peu comme des partitions ? Parce que la poésie, ça a toujours été lié au chant, surtout au début. Et je crois que vous, ce que vous retouchez le plus, c'est la ponctuation.
Oui, ben ça, c'est pour... C'est pour les romans aussi, à vrai dire, c'est la ponctuation. Hein, mais enfin, si vous voulez, la ponctuation, c'est fait pour marquer des temps. Je le prends vraiment comme ça. Mais les vers et les strophes, c'est aussi fait pour marquer des temps un peu. Donc il y a 2 systèmes de marquage de temps qui coexistent, quoi.
Vous êtes passé plutôt d'une forme respectant les formes anciennes qui obéissaient à des règles à des formes plus libres ou l'inverse ? J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de contraintes dans votre poésie.
Ben vous avez peut-être raison, mais je ne me rends pas vraiment compte en réalité. Enfin, si vous voulez, une contrainte, ça marche quand on la sent pas, quoi. Enfin, si ça vient pas sous forme de vers, c'est pas la peine d'essayer, quoi.
Ça vous vient naturellement sous forme de vers ?
Ben oui, oui, c'est quand même le... Les vers, ça marche un peu comme l'écriture automatique, finalement, bizarrement. Hein. C'est-à-dire quand on a les sons précèdent le sens, quoi.
Il connaissait la guerre, il chevauchait le vent.
Je voulais qu'on entende sur votre album Frédéric Lau et Michel Houellebecq « Il chevauchait le vent » parce que je trouve que les chœurs font beaucoup penser à Leonard Cohen qui était poète aussi à ses débuts et qui a fait un disque, je crois que c'est The Future, qui est assez annonciateur d'un cataclysme. Est-ce que c'est quelqu'un que vous affectionnez, Leonard Cohen, Michel Houellebecq ?
Oui, oui, oui. Oui, je le connais depuis longtemps.
Alors lui, il est devenu bouddhiste après avoir connu plein d'excès et des états dépressifs. Est-ce que vous vous intéressez au bouddhisme ou vous êtes toujours tourné vers le catholicisme ?
Ah non, je m'intéresse beaucoup au bouddhisme. C'est par crise. J'ai des crises de bouddhiste, oui. J'ai des crises catholiques aussi.
Comment se manifeste-t-elle ?
Je me dis que je vais essayer de méditer. Oui. Voilà, mais ça reste, ça dure pas longtemps, quoi. C'est des crises, des petites crises. Catholicisme, ça se manifeste par le fait d'aller à la messe, bizarrement, quoi, oui.
Frédéric Lau.
Cohen, moi je suis un grand fan, évidemment. Il a failli être rabbin quand il était jeune. Hein. Après, il y a beaucoup aussi d'images bibliques dans sa poésie. J'ai toujours aimé beaucoup sa voix. Les chœurs féminins, alors évidemment que ça fait penser à Cohen, mais c'est pas le seul à l'avoir, l'avoir utilisé. Moi, je peux penser plutôt au chœur grec, comme une tragédie. Et je trouvais que c'est l'idée que j'avais sur ce titre.
Le chœur annonciateur de la catastrophe à venir.
Tout à fait.
Alors vous, votre premier concert, Frédéric Lau, c'était Elvis Costello.
Oui.
Vous aviez 12 ans et c'est un des chanteurs favoris de Bret Easton Ellis.
Oui.
Alors,
c'est même le titre de son premier roman est tiré d'un titre d'Elvis Costello, Less Than Zero.
Ah oui, moins que zéro.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous aimez Elvis Costello ?
Ah oui, beaucoup. Je l'ai rencontré, j'ai joué plusieurs fois avec ses musiciens.
Michel Houellebecq, vous êtes déjà entretenu avec Bret Easton Ellis, est-ce que vous aimez ses romans ?
Oui.
Frédéric Lau, on l'a dit tout à l'heure, vous avez travaillé avec Pete Doherty, Daniel Darc, et donc en parlant de Darc, qu'est-ce qui est le plus dark chez Michel Houellebecq ?
Son silence.
Et y a-t-il quelque chose qui ne soit pas dark chez Michel Houellebecq ?
Son sourire.
Michel Houellebecq, dans la première lettre de votre correspondance avec BHL intitulée « Ennemi public », enfin ça c'est l'ouvrage, vous écrivez « Nous sommes l'un comme l'autre des individus assez méprisables. Nous n'avons en rien contribué au renouveau de la scène électro-française. Nous ne sommes même pas crédités au générique de Ratatouille. » Que pensez-vous de la scène électro-française contemporaine ?
Rien, mais je la connais pas. Non, mais j'ai mis ça parce que c'était amusant.
Bah oui, c'est drôle.
Oui.
Frédéric Lau.
Je connais peu la scène électronique actuelle. Souvent, on me parle de musique électronique, alors que j'ai beaucoup écouté de... J'adore Kraftwerk, par exemple. Ce qui me dérange souvent dans la musique électronique, c'est l'absence de mélodie. Et c'est justement ce qui me plaît chez Kraftwerk, c'est qu'il y a vraiment des mélodies.
Alors je me suis demandé, justement, il y a un poème de Michel Houellebecq qui s'appelle « Autoroute ».
Oui.
Et vous l'avez mis en musique, Frédéric Lau. Et moi j'ai pensé à « Autobahn » de Kraftwerk, qui veut dire « autoroute » aussi.
Oui, tout à fait.
Et ça, mais version ralentie avec un poème.
Oui, mais la musique d'autoroute me fait plus penser à du Jean-Sébastien Bach.
Ah oui ?
Oui, sous Tranxène.
Oui, d'accord, ça me parle. Michel Houellebecq, on parle souvent des écrivains fin de siècle. Il y a par exemple Huysmans, que j'adore, que vous avez mis en scène dans Soumission, ou début de siècle. Vous êtes les deux, écrivains fin de siècle et début de siècle. Est-ce que vous avez préféré l'une de ces deux époques ?
Disons que je préfère pas être un écrivain du XXe siècle.
Ah oui, pourquoi ?
J'aime pas tellement le XXe siècle en littérature, quoi, globalement.
Vous préférez le XIXe ?
Ah oui, largement.
Et que pensez-vous du XXIe ?
On peut espérer que ça soit mieux que le 20e.
Ah oui ?
Oui. Oui, moi je suis assez optimiste en fait. Je ne suis pas du tout Mais non, mais je suis désolé de le dire, désolé, hein, mais je suis pas du tout pessimiste sur le futur de la littérature, quoi.
Ah, sur le futur de la littérature, mais pas de l'humanité.
Oui, mais en général, oui. Alors ça, bon, ça, c'est un truc qui est bien embêtant, mais qui est vrai. C'est pas les pays les plus heureux qui font la meilleure littérature. Et oui.
Dans cet album, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, il y a une impression de sérénité. Vous parlez tout le temps de la mort, mais on dirait que la mort est presque souhaitée. Alors, je vous interroge, puisque vous êtes contre l'euthanasie, mais êtes-vous contre le suicide ?
En principe, oui. Mais enfin, bon, c'est une pensée agréable, hein, quand même.
Le suicide ?
Oui.
Oui, parce que c'est une solution vraiment qui règle tous les problèmes. On se dit, au moins, il y a toujours ça.
Oui, oui, il y a toujours ça. Donc, heureusement que ça existe, mais non, mais je suis contre, quand même. Ben, c'est une tentation qui est écartée.
De plus en plus nombreux, ils nous regardent hostiles. Et le mal est en eux, ils entrent dans nos villes. Le centre sonne creux, chacun s'automutile. Il faut être au moins deux pour une guerre civile. Il faut être au moins deux pour une guerre civile.
Là, on entend votre morceau perdu dans des rêves inutiles. Frédéric Lowe, moi, je vais encore me tromper sans doute, mais j'ai ressenti une légèreté presque à la Élie Jacquenot sur un texte parfaitement beau et déprimant, mais je me trompe.
J'aime beaucoup Élie Jacquenot. J'ai travaillé avec Élie, d'ailleurs. Mais j'aime bien, en pop musique, ou même globalement, j'adore par exemple Lynch pour ça, c'est qu'il peut y avoir un propos dur et puis une musique plus joyeuse ou plus tendre. Je trouve que dans Lynch, justement, les moments où l'entrée de Twin Peaks, par exemple, est très cheesy, très romantique,
yeah,
alors,
vraiment,
que, oui. Alors que juste après, on va nous parler de meurtre. J'aime bien ça, j'aime bien ça dans la pop musique, j'adore ça dans Blue Monday, par exemple, où la voix peut être, où les textes peuvent être très durs avec une musique qui semble guigrette, oui.
Pour faire du trampoline, c'est parfait.
Oui, tout à fait.
Michel Houellebecq, dans votre recueil Combat toujours perdant, à un moment, la mort est qualifiée de conclusion comique de nos vieilles fictions. Et la question est la suivante, sommes-nous, pour vous, des créatures risibles ou sommes-nous capables de grandeur ?
C'est pas incompatible, hein. Disons que c'est... Je sais pas si c'est bien de rire de l'homme. Ben, je me souviens d'en avoir parlé avec Lily Salver dans un entretien il y a longtemps qui disait qu'elle aimait bien rire des malheurs de l'humanité.
Pas vous ?
J'étais pas tout à fait d'accord. Une citation d'Épicure qui me plaisait bien.
Laquelle ?
Puisque nous sommes des hommes, il convient non de rire des malheurs de l'humanité, mais de les déplorer. C'est beau, Épicure, hein, souvent.
C'est vrai.
Oui. Donc, je peux pas m'empêcher d'en rire quand même, mais je suis pas très content de moi pour ça, quoi. Voilà.
Ah oui ?
Ben non.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même ? Est-ce que vous vous jugez souvent ?
Oui. Je suis assez dur avec moi-même, oui. Quand même.
Est-ce que vous avez des amis ? Parce que dans le recueil, vous écrivez « On fait son deuil de l'amitié, de loin le plus con de nos rêves ». Et dans « Triste falaise », vous parlez des simulacres d'amitié.
Oui. Oui, paradoxalement, oui. Paradoxalement, j'ai des amis. Je pense que... Enfin, le problème des gens, c'est qu'ils meurent, quoi, quand même.
Bah, parfois, c'est une bonne nouvelle.
Non, non, jamais vraiment, non.
Ah oui ?
Non, je me suis jamais réjoui de la mort de quelqu'un, même des gens que j'aime vraiment pas. Je suis pas si mauvais que ça, finalement. Enfin, bon. Mais ben, je vais finir par ne plus fréquenter que des gens plus jeunes que moi, quoi, en fait, je veux dire.
Parce que les gens meurent.
Ben oui, parce que les gens meurent, quoi. C'est très déplaisant.
Et vous qui vous êtes énormément intéressé au transhumanisme, vous ne pensez pas qu'on va pouvoir repousser la mort de plus en plus ?
Oui, dans des proportions assez modestes, hein, pour l'instant, je crois.
Pour l'instant, oui.
Pour l'instant, mais je suis plutôt pour, hein, je veux dire, mais il faudrait des... Bon, enfin là, je suis pas très compétent, mais il y a des histoires de cellules souches, des trucs comme ça. Enfin, ça pourrait marcher, mais c'est pas le cas, quoi.
Vous écrivez « Non, cette vie n'est pas suffisante. Elle ne peut contenir la millième partie de nos rêves. » Et un autre poème commence par « La mort ne suffit pas ». Alors la question est la suivante, y a-t-il une chose qui suffise et qui suffira à quoi d'abord ?
Je me souviens plutôt du premier, « La mort ne suffit pas ». Oui. Dans le deuxième, je ne sais pas trop ce que j'ai voulu
non,
dire.
Non, cette vie n'est pas suffisante. Elle ne peut contenir la millième partie de nos rêves.
Non, mais non, la vie n'est pas suffisante. C'est bien pour ça que les gens lisent, hein, d'ailleurs. Ben, je veux dire, parce que leur vie ne leur suffit pas, quoi. Les êtres humains sont quand même assez compliqués. Enfin, et ils mènent des vies plus simples que la vie qu'ils pourraient mener, quoi. Donc ils ont besoin, leur imagination a besoin d'autres vies, quoi. Pas forcément plus heureuses, hein, d'ailleurs, mais autres.
On vous a souvent qualifié de nihiliste, mais en fait vous ne l'êtes pas du tout, puisque déjà si on est réellement nihiliste, on ne fait pas d'œuvre.
Oui, ça c'est vrai. Mais... nihilisme, on donne au mot un sens trop général. Enfin, je veux dire, nihiliste, au départ, c'est quelque chose d'assez précis quoi, dans l'histoire de l'humanité. C'est un mouvement qui est apparu et qui est mort en Russie, qui était simplement défini par le fait qu'il faut détruire toute forme sociale existante, parce que, de toute façon, ce qui adviendra après sera mieux. En fait, c'est Nietzsche qui a commencé à donner au nihilisme un sens exagéré. Enfin, je pense pas être nihiliste, non.
Ouais, je recommande pour le sujet du nihilisme Père et Fils de Tourguenieff aux auditeurs.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Nous sommes avec Michel Houellebecq et Frédéric Lau qui viennent de faire un album ensemble. On parle poésie et musique. Frédéric Lau, quels sont pour vous les chanteurs les plus poètes ?
Morrissey dans Les Smiths, Leonard Cohen, Bob Dylan, Lou Reed.
Michel Houellebecq ?
Moi, je vais me limiter à Lou Reed. C'est bizarre, hein. C'est celui dont la mort m'a le plus attristé. Enfin, j'attendais encore d'autres textes, quoi. Je sais pas. Oui.
Et Neil Young, il vous fait toujours pleurer ?
Oui. C'est pas. Alors, lui, c'est pas pour ses textes. Hein. C'est vraiment sa voix.
Il est vrai que ce monde où nous respirons mal n'inspire plus en nous qu'un dégoût manifeste, une envie de s'enfuir sans demander son reste, et nous ne lisons plus les titres du journal. Nous voulons retourner dans l'ancienne demeure où nos pères ont vécu sous l'aile d'un archange. Nous voulons retrouver cette morale étrange qui sanctifiait la vie jusqu'à la dernière heure. Nous voulons quelque chose comme une fidélité, comme un enlacement de douce dépendance, quelque chose qui dépasse et contienne l'existence. Nous ne pouvons plus vivre loin de l'éternité.
C'est vous qu'on entend Michel Houellebecq au tout début des années 90 lire un extrait de La Poursuite du Bonheur sur France Culture au micro d'André Velter. Vous avez publié de nombreux recueils de poésie et parmi lesquels il y a Combat toujours perdant, le dernier. Il y avait votre premier roman, Extension du domaine de la lutte, et un autre recueil de poésie, Le sens du combat. Donc il y a toujours lutte, combat, et la question, vous êtes-vous déjà battu ?
Oh, ça fait longtemps, hein. Oui, j'étais obligé, ça remonte à mes années de... début des années de lycée, quoi.
Vous avez gagné ou on a pris le...
Bon, moyen. Enfin, je veux dire, c'est... Mauvais souvenir, hein.
Ça m'a fait penser à cette phrase très connue de la fêlure de Fitzgerald, il faudrait comprendre que les choses sont sans espoir et être pourtant décidé à les changer. Est-ce que ça vous parle, cette phrase, ou...
Je pense quand même que c'est pas possible.
De les changer ?
Oui, c'est... Je sais pas, enfin, je sais pas, je me suis toujours demandé s'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre était vrai, quoi, ou non. Et oui, dans un sens, oui, c'est pas faux, en fait. Enfin, la catégorie du pessimiste actif existe, quoi. Ben, je pense que je correspond assez bien à la définition du pessimiste actif.
En exergue de votre recueil, vous écrivez « Il y a des jours où ça va, des jours où ça ne va pas, mais je suis obligée de vivre tous les jours. Obligée est au féminin. » Qui parle ?
C'est un être humain en général, mais plutôt une femme, oui.
Ah oui, pourquoi ?
Je sais pas. Des fois, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Moi, souvent, d'ailleurs. Surtout en poésie, enfin...
À un moment, vous écrivez que le monde a légèrement basculé sur son axe. On est donc dans une géométrie du chaos. Est-ce que vous êtes sensible à la géométrie ? Puisque je repense à votre ouvrage sur Lovecraft. Je sais qu'il avait horreur de la géométrie non euclidienne dans la liste de ses phobies nombreuses.
Oui, c'est dommage, ça. Parce que c'est vraiment intéressant, la géométrie. Surtout celle de Riemann, en fait. Ouais. Mais peut-être que... Je ne sais pas si Lovecraft aimait vraiment beaucoup les mathématiques. Les mathématiques, je ne crois pas. Moi, j'ai beaucoup aimé ça.
Quelle branche des mathématiques ?
Oh, le plus fascinant, c'est l'arithmétique, en fait.
Pourquoi ?
À vrai dire, j'ai oublié pourquoi ça me fascinait tant. Mais j'étais fou d'arithmétique, je sais pas.
Est-ce que je peux risquer une hypothèse ?
Oui, allez-y.
En fait, j'ai remarqué que sur la gravure de la mélancolie de Dürer, il y a des instruments mathématiques, et les mathématiques, c'est un peu la chose qu'on a trouvée où il y a le plus de perfection. C'est l'endroit où la perfection existe et où l'abstraction existe, donc ça nous repose de nous, puisqu'on s'extrait totalement de soi.
Ben, c'est vrai que la sensation qu'on a de démontrer quelque chose est une sensation à nul autre pareille, oui.
Oui. Il y a des allusions... À des résurrections, à des gourous, à des êtres attendus, des guides inespérés. Est-ce que vous préféreriez avoir un gourou ou être un gourou, Michel Houellebecq ?
Ah ben, être un gourou.
Être un gourou.
Oh oui. Oui, j'aurais bien aimé, oui. Mais je ne pense pas avoir les aptitudes, vraiment.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous manque ?
Et c'est... Bah, je ne pense pas avoir de charisme en public. Enfin, bah non. Enfin, pas à la manière d'un gourou, si vous voulez. J'ai besoin d'un texte préécrit, enfin, un bon gourou improvise, quoi.
Vous pouvez avoir des fiches très discrètes dans la poche.
Non. Bon, par exemple, vous prenez le serment sur la montagne, il improvise complètement. Hein.
Peut-être qu'il avait un prompteur, on ne sait pas.
Non. Il a fait...
Frédéric Law, vous préférez guider ou être guidé ?
Ni l'un ni l'autre.
Ah oui ?
Ah oui.
Vous avez toujours été votre propre autorité ?
Non, mais j'ai toujours essayé de m'y approcher, oui.
Michel Houellebecq, il y a des textes qui frôlent l'hallucination cauchemardesque. Est-ce que ça vous arrive d'être inspiré par vos rêves pour vos poèmes ?
Ah oui, bah oui. Bah oui, mais ça m'est même arrivé d'en retranscrire. Oui, d'un entier, pour la première fois. Et... À un moment donné, j'ai un peu la flemme, mais pendant assez longtemps, je notais mes rêves. Sans chercher à les interpréter, hein, d'ailleurs, mais je trouvais ça intéressant, quoi.
Vous faites plutôt des cauchemars ou plutôt des rêves ?
Alors, je fais rarement des cauchemars, et c'est des cauchemars d'une grande banalité. Oui. Alors que les rêves... Bah, mes rêves heureux sont aussi d'une grande banalité, d'ailleurs. Mais c'est les rêves intermédiaires, quoi. Les rêves juste bizarres, qui, eux, sont vraiment intéressants à noter.
Alors, en parlant de bizarrerie, dans votre recueil de poèmes, on en trouve plusieurs. Il y a Hardy les acquéreurs, une capture d'écran d'un appartement à vendre dans le 13e arrondissement, et vous faites l'exégèse de l'annonce immobilière. Il y a une citation, on parlait de géométrie tout à l'heure, dans un livre de Marcel Bankin, mais je laisse les auditeurs la découvrir. Et il y a un poème assez énigmatique, « It would be nice ». Ça parle de masturbation sur un cadavre et de pensée émue en lisant cette idée sur une femme qui vieillit et qui se dit « Peut-être je devrais me débarrasser de mes photos, nues, il y en a trop. Mais en même temps, j'aime bien l'idée que des gens se masturbent sur mes photos une fois que je serai morte. »
Oui, ça m'a bouleversé.
Mais donc ça, c'est pas de vous, c'est quelqu'un qui vous l'a véritablement écrit.
Oui, quelqu'un me l'a véritablement écrit, oui. J'ai trouvé ça très beau, en fait. Comme souhait, pour après sa mort, oui.
Il y a un très court poème qui s'intitule « Et le centre de tout ». Moi, ça m'a fait penser à « Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part » de Pascal. Je crois que vous l'aimez bien et vous parlez de son urgence rock'n'roll. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est... ça va de pair avec une espèce d'insolence, quoi. Je sais pas, il y a peu d'auteurs aussi insolents que Pascal. Il y a peut-être Saint-Paul. Mais j'ai... Bon, son commentaire sur les essais de Montaigne, c'est le saut projet qu'il a eu de se peindre. Et j'aime bien cette insolence. Enfin, et l'urgence, oui, l'urgence, c'est qu'il... enfin, je sais pas, de temps en temps, il met etc. dans les pensées. Enfin, c'est un truc, il dit sottise que tout cela et il passe à autre chose. Enfin, on sent qu'il est pressé, quoi. Enfin, d'ailleurs, il devait être pressé, effectivement, parce qu'il est quand même pas mort très vieux. Ouais.
Vous dites qu'après l'avoir lu, toute la douleur du monde était prête à s'engouffrer en vous.
Ah oui. Ah oui, 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 ça a été terrible. Terrible. Je voyais tous les êtres humains, juste un peu plus vieux que moi, comme des cadavres en sursis, quoi. Oui. Non, sur la mort, il est inégalé, enfin, c'est... Oui.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no.
C'est votre choix musical, Michel Houellebecq, 10cc, I'm not in love.
Oui, cette chanson, c'est étonnant, c'est gagné en 15 secondes, hein. Le souffle de départ. Et puis bon, le fait de dire exactement le contraire de ce que toute la chanson suggère si fort, quoi.
C'est-à-dire ?
Bah, il est amoureux. C'est difficile de pas tomber amoureux avec cette chanson, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai même pas essayé, d'ailleurs.
It doesn't matter what you create, if you have no fun. Pretty girl, put down your pen, come over here, I'll show you how it's done. I can dance.
Michel Gourevitch, Party Girl. Et ça, c'est votre choix, Frédéric Lou. Je suis très contente parce que j'adore cette chanteuse aussi.
C'est magnifique. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et je me suis mis à écouter cette chanson en boucle. J'adore le texte, j'adore sa voix. D'ailleurs, ça me fait penser à Cohen de temps en temps. Et j'adore la fin... I was so fragile, but now I'm so wild, so wild.
J'étais si fragile, mais maintenant je suis si sauvage.
Oui. Je trouve la mélodie très belle. L'arrangement, il n'y en a pas, c'est juste une basse et puis sa voix. Je trouve ça à la fois intense, très triste. Je trouve ça... c'est abrupt. Et en fait, je trouve que ça va très bien avec mon choix de Constance Debray.
En travaillant avec Michel, est-ce que vous lui avez donné des indications ou il vous en a donné ? Comment vous vous êtes accordés tous les deux ?
Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on s'est accordés en se donnant aucune indication.
C'est magnifique.
Mmh.
J'aime bien terminer l'émission sur les admirations et les coups de cœur. Et vous, Frédéric Lau, vous aimez beaucoup les livres d'entretien d'artistes. Par exemple, oui. John Cale, Bacon,
oui.
Ou Al Pacino.
Oui, c'est vrai. En ce moment, je suis en train de lire le... C'est vraiment un truc de musicien, mais j'adore le livre. C'est le livre de Mike Joyce, c'est lui qui m'a offert son livre parce que j'ai joué avec lui il y a 10 jours avec Peter Doherty sur la scène de l'Olympia. Et c'était le batteur des Smiths, qui est un de mes groupes mythiques. Et ça peut être très souvent raté, les livres de musiciens, et celui-là est très très fort.
En livre, vous aimez le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, La vraie vie de Sebastian Knight de Nabokov.
Oui, beaucoup.
Et quels sont vos livres préférés de Michel Houellebecq?
C'est difficile là, mais je dirais Les particules élémentaires comme ça, mais je peux changer d'avis demain.
Comment vous appelez-vous? Je veux une réponse.
Laissez-moi tranquille. C'est pas de l'amour que je cherche.
Elle était en noir. En noir ou en blanc? Qui est cette femme? En blanc? En noir?
Frédéric Law, un de vos films préférés, c'est La mariée était en noir de Truffaut.
Oui.
Il y a aussi du James Gray, de Yards, Elephant Man, du Vivier, La belle équipe, ou Chabrol, Que la bête meurt et Le boucher.
Oui, tout à fait.
Vous voulez nous dire un petit mot sur l'un de ces films?
La mariée était en noir, c'est juste, j'adore Truffaut et l'histoire est incroyable. Le fait que par hasard des amis tuent une mariée et que un marié plutôt et que Jeanne Moreau qui est l'héroïne décide de se venger, de tuer toutes les personnes qui ont tué accidentellement son mari. Je trouve cette histoire incroyable.
Michel Houellebecq, vous êtes plutôt cinéma muet.
Oui.
Dreyer, Murnau.
Dreyer, Murnau, Lang aussi. Et bon, il y a Eisenstein. Mais je trouve qu'Eisenstein est très bien sorti avec le cinéma parlant. En grande partie grâce à Prokofiev, à vrai dire.
Ah oui?
Ah oui, oui, c'est magnifique. Les musiques de Prokofiev qu'il a fait pour Eisenstein sont sublimes.
Qu'aimez-vous dans l'art contemporain? Vous avez écrit un texte sur l'art, c'était une préface pour Marc Latuyère, un photographe.
Oui, c'est vrai. C'est un photographe. Son livre est très particulier, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il photographie les gens en leur mettant un masque, mais un masque qui. On ne devine pas immédiatement que c'est un masque. C'est un masque très réaliste, quoi, et l'effet était. Et souvent assez effrayant, en fait, hein, mais vraiment pas mal.
Et en littérature, alors vous nous recommanderiez qui? J'ai connu grâce à vous Jeffrey Ford.
Ah oui! Vous avez lu ça. Vous avez bien fait.
Bah, j'ai découvert grâce à vous aussi Demain les chiens de Clifford Simak.
Oui. Alors bon, mes conseils, malheureusement, je ne vais pas me souvenir des noms. Parce que ils sont difficiles à mémoriser pour un Français. Mais ces derniers temps, j'ai lu pas mal de bons livres indiens. C'est étonnant l'Inde. Enfin, ça donne une image assez effrayante, mais assez fascinante du pays aussi. Comment dire, où il y a la modernité la plus franche, quoi. Enfin, c'est un pays très pionnier dans divers domaines de high-tech, mais en même temps avec un système de caste qui reste présent et qui ne va pas du tout avec la modernité. En plus, il se rajoute à un conflit hindou-musulman assez fort. Enfin, c'est un pays vraiment compliqué et intéressant. Et je trouve que la littérature indienne fait bien son travail, quoi, de rendre compte du pays. Oui,
Graziella de Lamartine.
Oui, ben ça, oui, ça c'est. Ça m'a beaucoup inspiré, quand même. Oui, j'ai un peu essayé de faire pareil, enfin, dans Sérotonine. Et puis bon, il y a une chose qui est admirable aussi, c'est que Graziella se termine par un poème. Un de ses plus beaux, en plus. C'est-à-dire que. C'est presque la démonstration que, parce que l'émotion monte de plus en plus, et au-delà d'un certain seuil d'émotion, il n'y a plus que la poésie qui marche. Et Graziella en est la démonstration quasi parfaite.
Dans Rester vivant, méthode, qui est pour moi un peu comme du Rilke mélangé à du Schopenhauer, vous dites, comme conseil à un jeune poète, développez en vous un profond ressentiment à l'égard de la vie. Ce ressentiment est nécessaire à toute création artistique véritable. Est-ce que vous le pensez toujours?
Oui, je le pense toujours. Il faut avoir quelque chose à reprocher à la vie, quoi. Sinon, on vit. Voilà, c'est tout.
Qu'est-ce que vous lui reprochez de principal?
Oh, écoutez, là, c'est tout. Mais c'est bien expliqué dans mes livres, je dirais. C'est difficile à résumer, mais que. Je sais pas. Le reproche principal, c'est que il y a des gens malheureux qui ne le méritent pas.
Vous pensez qu'on peut mériter d'être malheureux?
Oui.
Mais pas de mourir.
Ben, c'est un peu... C'est une punition forte, quand même. Hein. Donc, oui, non, mais c'est vrai. Enfin, bon.
Merci beaucoup, Michel Houellebecq et Frédéric Lau.
Merci à vous. Merci.
À l'occasion de la sortie de votre album « Souvenez-vous de l'homme », vous donnerez une série de concerts du 8 avril au 7 mai à la Scala à Paris. Et je rappelle que le recueil de poèmes « Combat toujours perdant » est paru chez Flammarion. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Tempero et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Alix Barrois.